Les fugitifs de l'espace-temps. Chapitre 1. Une journée à Meereen. La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe. Les écrans de télévision, les sites d'information, les réseaux sociaux, tout était saturé par la même annonce. Le Pentagone avait confirmé l'existence des ovnis. Des vidéos, autrefois considérées comme des canulars, étaient maintenant validées comme preuves tangibles. Les lanceurs d'alerte, longtemps moqués ou discrédités, étaient soudainement devenus des héros nationaux. À Meereen, en Suisse, les terrasses des cafés, d'habitude paisibles, bruissaient des théories les plus folles. Certains parlaient d'une invasion imminente, d'autres évoquaient des alliances secrètes entre gouvernements et extraterrestres. Les enfants, les yeux brillants, imaginaient des créatures aux formes étranges, venues d'autres galaxies. Au milieu de cette agitation, la famille Pachark menait une vie paisible. Leur maison, une charmante bâtisse à deux étages aux murs blancs, était nichée dans un quartier tranquille. Le jardin, soigneusement entretenu, était un havre de paix où les roses commençaient à fleurir, attirant les papillons et les oiseaux chanteurs. George Pachark, le père, était un homme grand, aux cheveux poivre et sel, toujours vêtu de manière formelle, même à la maison. Physicien de renom, il passait de longues heures dans son bureau, entouré de piles de documents et de livres sur la physique quantique. Malgré son apparence sérieuse, il avait un faible pour les blagues de science et adorait raconter des anecdotes sur ses journées passées au CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Isabelle, la mère, était le pilier de la famille. Avec ses cheveux châtains ondulés et ses yeux pétillants de malice, elle dégageait une chaleur maternelle. Elle avait toujours un livre à portée de main, souvent un roman de science-fiction ou un ouvrage sur l'astronomie. Le soir, elle aimait s'asseoir sur la véranda, un télescope à ses côtés, et raconter à son fils unique les histoires des constellations. Dylan, leur fils, était un mélange parfait de ses parents. Il avait hérité de la curiosité insatiable de son père et de l'amour des étoiles de sa mère. À 12 ans, il était toujours en mouvement, explorant chaque recoin de leur jardin, grimpant aux arbres ou courant après son chat, Orion. Sa chambre était un sanctuaire de découvertes, avec des étagères remplies de pierres précieuses, de modèles de vaisseaux spatiaux et d'un petit télescope pointant vers le ciel. Ce matin-là, alors que George lisait le journal dans la cuisine, une photo en première page attira son attention. Elle montrait un objet volant, non identifié, capturé par une caméra de surveillance près d'une base militaire, non loin du CERN. Isabelle, préparant le petit déjeuner, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
« Tu crois que c'est vrai ?»
demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. George haussa les épaules.
« Avec tout ce qui se passe en ce moment, qui sait ?»
Dylan, attiré par leur conversation, s'approcha de la table, les yeux écarquillés.
« Papa, tu crois aux extraterrestres ?»
George sourit, ébouriffant les cheveux de son fils.
« La science nous a appris à toujours garder l'esprit ouvert, mon garçon. »
Isabelle posa une tartine beurrée devant Dylan.
« Mange d'abord, ensuite. Tu pourras partir à la chasse aux aliens. »
Dylan rit, prenant une bouchée de sa tartine.
« Promis, maman. »
À Meereen, comme partout ailleurs, la nouvelle avait suscité une vague d'excitation. Les écoles étaient en effervescence. Les enseignants tentant tant bien que mal de canaliser la curiosité débordante des élèves. Les commerces locaux avaient rapidement saisi l'opportunité, proposant des produits dérivés sur le thème extraterrestre, t-shirts, casquettes, posters. Après l'école, Dylan retrouva ses amis Gabriel et Noah au parc central de Meereen. Gabriel, avec ses cheveux châtains qui tombaient librement sur ses épaules, portait en elle une mélancolie douce. Elle était la fille unique du docteur Alexandre Renaud. La disparition précoce de sa mère avait laissé une empreinte indélébile dans son cœur, renforçant le lien profond qu'elle entretenait avec son père. À ses côtés, Noah, un garçon aux joues roses et portant des lunettes élégantes, partageait ses anecdotes avec une vivacité contagieuse. Malgré sa jeunesse, il avait la capacité à raconter des histoires qui captivaient son auditoire. Élevé par sa grand-mère, il avait hérité d'une sagesse ancienne qui contrastait avec son apparence juvénile. Les trois enfants, assis sur une balançoire, échangeaient joyeusement sur les événements de leur journée.
« Ma grand-mère dit que c'est une ruse du gouvernement pour nous distraire de vrais problèmes. »
déclara Noah, ajustant ses lunettes rondes. Gabriel, les cheveux noirs flottant au vent, fronça les sourcils.
« Mon père dit que c'est sérieux. Il sait ce qu'il dit. Il travaille au CERN.
Dylan, tenant une pierre précieuse de sa collection, la fit tourner entre ses doigts.
Imaginez si on pouvait les rencontrer, parler avec eux, apprendre d'où ils viennent.
Les trois amis se perdirent dans leurs rêveries, imaginant des mondes lointains et des civilisations avancées. Pendant ce temps, à la maison des Pacharques, Isabelle était au téléphone avec une vieille amie qui travaillait comme journaliste à Genève.
Isa, c'est incroyable! Les gens sont partout dans les rues, manifestant, demandant la vérité. Certains croient que les extraterrestres sont déjà parmi nous.
Isabelle, rêveuse, regardant par la fenêtre, répondit doucement.
Peut-être qu'ils le sont. Peut-être qu'ils sont là depuis longtemps, nous observant.
Georges, rentrant du CERN, semblait préoccupé. Il avait entendu des rumeurs parmi ses collègues, des murmures sur des projets secrets et des découvertes qui pourraient changer le cours de l'histoire humaine. Isabelle, remarquant son air sombre, lui demanda
« Tout va bien, Georges ?»
Il soupira, posant sa mallette sur la table.
« Il se passe des choses que je ne peux pas encore expliquer. »
Alors que la nuit tombait doucement et que les rues s'illuminaient, la télévision dans le salon des Pacharques diffusait un débat animé entre experts, scientifiques et ufologues. Chacun avait sa théorie, certains parlant de complot, d'autres d'une nouvelle ère pour l'humanité. Dylan, assis sur le tapis, jouait avec son chat, tout en écoutant d'une oreille distraite. Les mots « extraterrestre », « CERN » et « portail dimensionnel » revenaient fréquemment, piquant sa curiosité. Isabelle, assise sur le canapé, feuilletait un vieux livre d'astronomie, un héritage de sa grand-mère. Elle était fascinée par l'idée que les étoiles qu'elle observait depuis des années puissent abriter d'autres formes de vie. Georges, quant à lui, était dans son bureau, plongé dans ses recherches. Des papiers éparpillés, des équations griffonnées et des schémas compliqués recouvraient son bureau. Il était clair qu'il cherchait à établir un lien entre ses travaux au CERN, les rumeurs et les récentes révélations. Soudain, un coup à la porte interrompit la quiétude de la soirée. Isabelle alla ouvrir et découvrit un homme en costume sombre, l'air sérieux.
« Madame Pacharque, je suis de l'Agence de sécurité nationale. Pourrais-je parler à votre mari ?»
Georges, alerté par la conversation, se joignit à eux.
« Que se passe-t-il ? »
L'agent, après avoir jeté un coup d'œil prudent autour de lui, répondit.
« Il y a eu des problèmes au CERN, monsieur Pacharque. Nous avons besoin de votre coopération. »
Dylan, curieux, s'était approché discrètement et écoutait la conversation. Les mots de l'agent firent naître en lui un sentiment d'inquiétude. Gabriel, passant par là pour rendre visite à Dylan, avait également remarqué la présence de l'agent. Elle échangea un regard entendu avec Dylan, comprenant que quelque chose d'important se tramait. L'atmosphère dans le salon était tendue. L'agent, dont l'insigne indiquait le nom Leroux, s'était assis, invitant Georges à en faire de même. Isabelle, protectrice, restait debout, une main posée sur l'épaule de son mari. Dylan et Gabriel, curieux mais prudents, s'étaient installés à une distance respectueuse, écoutant discrètement. L'agent Leroux prit une profonde inspiration, ajustant sa posture avant de fixer Georges d'un regard sérieux.
« Docteur Pacharque, vos travaux au CERN ont été détournés à des fins que vous n'auriez jamais imaginées. La DARPA, en collaboration secrète avec le directeur du CERN et le docteur Renault, a mis en place un laboratoire secret dans les profondeurs du complexe. Ils ont utilisé vos recherches pour mener des expériences à haut risque. Le docteur Renault, en particulier, a été un acteur clé dans la mise en œuvre de ces expériences, exploitant vos théories bien au-delà de leurs limites théoriques. »
Il marqua une pause, laissant l'information s'installer.
Lors de l'une de leurs tentatives, ils ont réussi à ouvrir une fissure temporelle juste au-dessus du CERN. Bien que cette fissure soit minuscule, elle est suffisamment grande pour être perçue par des êtres d'autres réalités, voire leur servir de porte d'entrée.
Georges, les traits tirés par l'indignation et la colère, se leva brusquement de sa chaise.
Vous me dites que mes recherches ont été détournées pour jouer avec les fondements même de la physique, et que le directeur du CERN, ainsi que le docteur Renault, étaient complices de cette folie.
Sa voix tremblait d'émotion, trahissant son inquiétude pour les conséquences potentielles. Dylan jeta un regard furtif vers Gabriel, cherchant à voir sa réaction à la mention de son père. Gabriel, les yeux écarquillés, semblait aussi choquée que les autres, montrant qu'elle n'était pas au courant de ses agissements. Le roux hocha la tête, gravement.
« C'est exactement ce que je dis. Et maintenant, nous sommes confrontés à une situation catastrophique. »
Dylan, sentant son cœur battre plus vite, se tourna vers Gabrielle, dont les yeux reflétaient une profonde inquiétude. Les implications de ce que venait de dire l'agent étaient vertigineuses. L'idée que les recherches de son père aient pu jouer un rôle dans ces événements extraordinaires le bouleversait. Gabrielle semblait troublée, réalisant que son propre père avait trahi la confiance de M. Pachark. Georges, pâlissant légèrement, fronça les sourcils.
« Je n'étais pas au courant de l'utilisation de mes travaux par la DARPA. Et Alexandre, je le croyais être un ami. Comment a-t-il pu travailler sur mes recherches dans mon dos? C'est inacceptable. Je veux en savoir plus, et je veux m'assurer que mes recherches ne soient pas utilisées davantage à des fins néfastes. »
L'agent Leroux, percevant l'angoisse de la famille, hocha la tête avec empathie.
« Je comprends vos préoccupations, Dr. Pachark. C'est précisément pour cela que je suis ici. J'ai besoin de vous pour démêler cette situation, et si possible, rectifier le tir. Tout ce dont nous avons discuté reste strictement confidentiel. La moindre fuite d'information pourrait avoir des conséquences dramatiques. Je compte sur votre entière discrétion. »
La soirée se termina sur cette note solennelle. Alors que l'agent Leroux quittait la maison, la famille Pachark se rassembla dans le salon. Ils savaient qu'ils étaient sur le point d'entrer dans une aventure qui les dépassait. Dylan, fixant les étoiles à travers la fenêtre, se perdit dans leurs scintillements. Parmi elles, certains astres abritaient peut-être des observateurs curieux, se questionnant, tout comme lui, sur les mystères de l'univers. Vous venez d'écouter le chapitre 1 du superbe livre de science-fiction « Les fugitifs de l'espace-temps ». Si cet ouvrage vous intéresse, vous pouvez le trouver sur le site Amazon. Je vous souhaite une excellente lecture.